France Culture.
Avoigny, épisode 4, l'autre scène politique, l'Europe. Bonjour Josep Borrell.
Bonjour.
Nous allons parler de votre carrière européenne, enfin une partie de votre carrière européenne. La dernière partie sera pour l'épisode 5. Mais avant de commencer sur votre carrière européenne, Josep Borrell, peut-être un mot sur votre sentiment européen, puisque vous avez consacré une part très importante de votre vie, de votre travail, de vos activités politiques aux questions européennes. Quand vous n'avez pas occupé de poste institutionnel, vous avez donné des cours, des conférences, vous avez participé à des séminaires sur l'Union européenne dans des universités, dans des centres de formation, dans des forums internationaux dans de nombreux pays. Je crois même qu'à partir de vos 17 ans, à vrai dire, vous vous êtes intéressé à l'Europe, puisque votre première bourse, là je parle sous votre contrôle, votre première bourse a été obtenue grâce à une dissertation sur les perspectives d'adhésion de l'Espagne au marché commun européen, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, quand votre pays était encore sous le régime franquiste. Donc ça remonte très loin, ce sentiment européen. Pourquoi l'Europe a-t-elle toujours été au cœur de votre engagement ?
C'est vrai, j'ai écrit ce petit essai quand j'avais 16 ans, parce que j'avais fait un concours pour présenter des essais sur la perspective européenne de l'Espagne. Et moi, de mon village, de la Boulangerie parent, j'avais écrit un petit essai qui m'a donné la bourse pour aller pour la première fois à une université, une véritable université, l'Université de Santander, au nord de l'Espagne. Je ne sais pas, j'ai toujours senti que, d'une façon, si vous voulez, intuitive, à la limite irrationnelle, que la guerre, j'avais énormément lu sur la guerre mondiale. Je connaissais tout le détail des batailles de Stalingrad, de débarquement, l'Afrique Corse, la résistance française. Je sentais que les Européens avaient fait des véritables fratricides. J'allais en Yougoslavie quand j'étais à l'université, j'ai visité les champs de bataille, de là où les Allemands utilisaient les gaz dans les fronts italiens, Caporetto. Caporetto, tous j'ai vu visiter les champs, les cimetières. J'ai eu le sentiment que les Européens étaient des fratricides, étaient des gens fous qui s'entretuaient pour des idées qui étaient de notre monde, non? Les empires, l'empire allemand, l'empire français, l'empire espagnol, mais qu'est-ce que ça compte, non? Et puis rappelez-vous, j'ai passé 8 ans de ma vie, non plus, j'étais représentant de l'Espagne dans les conseils, le conseil de budget, le conseil environnement, le conseil transport, le conseil télécom. J'ai siégé dans les différentes formations des conseils avec mes collègues, les ministres. Non? Alors je me suis beaucoup frotté avec la construction européenne au niveau ministre, au niveau conseil, dans la branche conseil. Quand Zapatero est devenu président du gouvernement, il m'a demandé de représenter l'Espagne dans la Convention européenne.
On est au début des années 2000.
Pour faire la Constitution européenne. Et là aussi, je me suis beaucoup engagé avec Giscard d'Estaing, avec qui j'ai lié un bon rapport d'amitié. J'ai oublié les histoires des tomates.
Vous n'avez pas été rancunier?
Non, ben, je me suis très bien entendu avec Giscard d'Estaing, qui était le président de la Convention. Le mandat était de faire un traité qui soit lisible, parce qu'il avait tellement de traités que c'était impossible de les lire. Mais Giscard a voulu faire un pas dans l'histoire. Il a dit, non, on ne va pas faire une consolidation des traités, on va faire un texte constitutionnel pour l'Europe. Et on a mis la charrue devant le bœuf. Parce que nous, on croyait que le peuple européen réagirait enthousiaste devant l'idée de la Constitution européenne, et ça a été tout à fait le contraire.
Ça a été un tournant dans la construction de l'Union européenne. C'est un mauvais souvenir, à vrai dire, en France. La Constitution, on le rappelle, a été bloquée par référendum en France et aux Pays-Bas, parce que les deux pays ont dit non.
Mais c'est la France.
Comment ça s'est passé en Espagne ?
Bon, en Espagne, c'était les premiers à voter. Et ça a été un succès remarquable, 90% ou 80% pour. Parce que l'Espagne était un pays absolument enthousiaste, européiste. La Constitution européenne, et oui, pourquoi pas, on vient de faire la Constitution espagnole, non ? Quel est le problème ? On a fait la Constitution espagnole, mais non, on va faire la Constitution européenne. Et pour ça, il faut faire un référendum. Et il y a eu une énorme majorité. Seulement l'extrême gauche et l'extrême droite ont mis des questions. Mais l'enthousiasme européiste des Espagnols a fait que les premiers à voter avaient des résultats très bons pour la Constitution. Ensuite, c'est les Français qui sont venus.
Oui, alors moi j'ai des mauvais souvenirs en France, en fait. Pour celles et ceux qui étaient pour le traité pour la Constitution européenne, c'est sûr que le non leur a déplu, mais aussi pour ceux qui ont voté non à la Constitution européenne, puisque en fait 2 ans plus tard, le traité de Lisbonne a été adopté et reprenait en partie les choses du traité. Donc tout le monde s'est senti spolié ou trahi.
À peu près la même chose en changeant les titres. Mais là, c'est à nouveau la bataille du récit. Tout dépend comment vous présentez les choses. Nous, les européistes convaincus, l'enthousiasme des peuples européens allait se montrer en faveur d'un saut en avant dans l'Union européenne. Et ça n'a pas été comme ça, parce que les gens ont eu peur. On dit, une constitution, c'est les États qui ont une constitution. L'Europe, c'est pas un État, alors pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir une constitution? Si on fait une constitution européenne, c'est parce qu'on fait de l'Europe un État. Et donc, les États nationaux s'affaiblissent. Et on a fait une horrible campagne de marketing en faisant une proposition qui était bien au-delà des expectatives des gens. D'abord, ce n'était pas une constitution, parce que c'était un livre comme ça.
C'était épais.
C'était un livre impossible à lire. En réalité, c'était la refonte des traités, mais avec un nom flamboyant, Constitution européenne. En réalité, c'était une chose illisible.
Joseph Borrell, comment avez-vous, de votre côté, par conséquent, perçu la position de la France ? Vous avez compris ?
Un réflexe national. Les Français ne voulaient pas d'un État européen. Ils ne voulaient pas d'un État européen, donc ils ne voulaient pas d'une constitution européenne.
C'est ça aussi que vous disiez, quand vous disiez qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Les choses ont été pas forcément très bien présentées.
L'avant-garde est allée beaucoup plus loin.
Trop vite, trop loin.
Que la troupe. L'avant-garde s'est détachée de la troupe. Et puis le Parti socialiste français a joué contre, je me rappelle, Fabius et certains de mes collègues eurodéputés français qui, à l'heure de la vérité, ont dit non, on ne veut pas de ça. Et bon, ça n'a pas marché. Et finalement, ce qu'on a fait, c'était de faire le même texte.
Le traité de Lisbonne.
Traité de Lisbonne, avec une complexité inouïe, parce que... On n'est pas arrivé à clarifier quel est le rôle de qui. On dit que les gens ne savent pas quel est le téléphone de l'Europe, ils continuent à ne pas le savoir. Les gens ne savent pas comment l'Europe fonctionne. Et on n'a pas réussi à faire une architecture qui soit compréhensible. Mais en tout cas, bon, on a approuvé le traité de Lisbonne.
Entre-temps, me semble-t-il, Josep Borrell, vous avez été tête de liste.
J'étais tête de liste.
Du Parti Socialiste Espagnol aux élections européennes. Vous les avez remportées.
Et je les ai remportées glorieusement. Je pense.
En 2004.
Et je veux penser que les gens qui ne m'ont pas pu voter comme candidat à la présidente du gouvernement, ils m'ont voté comme eurodéputé. Et l'idée de me faire tête de liste, ça a été intelligent de la part de Zapatero, parce qu'il a dit, On va voir si maintenant il y a l'appui populaire. Et oui, ça a marché très bien. Je suis venu tête de liste. Tête de liste, j'ai gagné les élections avec beaucoup de députés. La délégation espagnole était la plus nombreuse parmi la famille socialiste. Et je suis arrivé là comme député, neuf députés, junior. Et il fallait choisir le président du Parlement. Et les candidats naturels étaient Michel Rocard. Parce qu'il était président, avait été premier ministre. Moi, bon, j'avais jamais été premier ministre. Et ça, il y a une hiérarchie quand même. J'avais eu beaucoup de voix, mais Michel Rocard était Michel Rocard. Une personnalité appréciée, formidable. Je l'aimais bien, Michel Rocard. Et il n'a pas été élu parce que le Parti socialiste français ne l'a pas voulu. Et là, j'ai vu en scène le manichéisme politique. Le Parti socialiste français a préféré ne pas avoir Michel Rocard comme président du Parlement. Et il a échangé la présidence par deux vice-présidences.
Et la présidence vous est revenue?
Ben alors, mais par accident, parce que Michel Rocard était, n'avait pas l'appui des Français. Et le deuxième en rang, c'était moi. Et tout d'un coup, je suis arrivé au Parlement. Et le lendemain, j'étais président du Parlement.
Vous êtes resté président du Parlement européen, Josep Borrell, de 2004 à 2007. Oui. Puis, de 2007 à 2009, vous êtes passé président de la Commission du développement du Parlement européen.
Ça a été une belle expérience aussi. C'était la première fois que je suis allé à Gaza en tant que président de la Commission du développement, d'aide au développement. J'ai vu les premiers bombardements de Gaza sur place. J'ai parcouru le monde en tant que président de la commission de l'aide au développement. À l'époque, l'époque faisait encore de l'aide au développement. Maintenant, c'est fini. On ne fait plus de l'aide au développement. Maintenant, on fait des partenariats. Mais à l'époque, on était encore une puissance du point de vue, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. C'est là où on mettait les paquets, un peu plus en Amérique latine, mais surtout en Afrique. Et ça a été une très belle expérience aussi. Ça m'a aidé à parcourir le monde pour la première fois. Et on a mis en place le traité de Lisbonne. Et dans le traité de Lisbonne, il y avait ce poste de haut représentant pour la politique extérieure et de sécurité. Je me rappelle que quand on écrivait les fonctions, je me suis dit, bouf, c'est un boulot impossible celui-là. Le pauvre qui va s'en occuper.
Celui que vous vous occuperez quelques années plus tard.
Exactement.
On y reviendra dans l'épisode suivant.
Le pauvre qui va s'en occuper, il va avoir la vie dure. Parce que... Et voilà, j'ai passé... Et quand j'ai fini cette époque du Parlement européen, j'ai décidé d'arrêter la vie politique et rentrer à l'université. Et j'ai gagné par concours le poste de président de l'Institut européen de Florence.
Mais avant de parler de ces années-là où vous présidez l'Institut universitaire européen de Florence, 2010-2012, Josep Borrell, peut-être encore un mot sur ces années, ce mandat de président du Parlement européen. J'ai une question par rapport à ce que vous avez pu retirer du fonctionnement du Parlement européen, du rôle des députés, de la façon dont les débats sont menés. Donc, force et faiblesse du Parlement européen, j'ai envie de vous poser la question.
Ça serait...
On en a pour 2h30, vous voulez dire.
Ça mériterait un ou deux chapitres, parce que le Parlement européen, c'était une machine lourde, complexe. Imaginez-vous, des différentes cultures parlementaires, des différents pays, les équilibres entre pays, les équilibres entre groupes, la lourdeur des débats, le rôle limité du Parlement européen, parce que finalement, le Parlement européen n'a pas de pouvoirs fiscaux. C'est une anomalie totale. Le Parlement, d'abord, vote l'impôt. C'est ça, sa fonction historique. Et les parlements européens ne votent pas l'impôt. Parce que l'Union européenne n'a pas d'impôt. L'Union européenne vit de l'argent des États. Et il y a toujours un équilibre un peu malsain entre Les parlements pouvaient s'affirmer contre les États et contre la Commission. Et pour la première fois, le Parlement a fait une chose qui l'a fait monter en puissance. C'est quand le commissaire italien, Buttiglione, a fait une performance horrible. Il était proposé comme commissaire à la justice. Et il a fait une performance horrible en traitant la question des genres, d'égalité homme-femme, d'une façon qui a généré un rejet des députés. Et à l'époque, on ne pouvait pas refuser un commissaire. Vous refusez la commission dans son ensemble. Si vous voulez mettre la porte, si vous ne voulez pas accepter un commissaire, vous voulez refuser la commission dans son ensemble. C'était la commission Barroso. Et alors les députés ont dit, ce commissaire italien, jamais la vie. Oui, mais alors il faut dire non à la commission Barroso. C'était pas la même chose, non? Et là, j'ai vu le fonctionnement, comment ça se marchait. Les députés étaient des courroies de transmission du gouvernement. C'est-à-dire, Barroso pouvait demander à la chancelière allemande de faire de sorte que ce député vote pour la commission. Et ça, c'était une ordre que le député suivait. On peut dire la même chose des Espagnols. Pas la même chose des Britanniques. Parce que les Britanniques n'avaient pas du tout le rôle de courroie de transmission. J'ai vu au premier Blair devoir téléphoner un par un aux députés pour essayer de leur convaincre de ne pas voter le refus de la commission. Et voir comment le député anglais disait « Ah non, 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 désolé. »
Les Français ?
Le Français, sous l'ordre et la discipline des partis. Mais d'autres pays, en particulier les Scandinaves et les Britanniques, la discipline des gouvernements, écoutez, moi j'ai été élu, moi personnellement, dans une circonscription personnelle, moi, on m'a voté à moi. Et si j'ai fait ce que vous me dites, peut-être que la prochaine fois, on ne va pas me lire. Et moi, j'ai vu comment des députés britanniques lui disaient non à son premier. Tandis que d'autres disaient, bon, ben, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et à un moment donné, je me rappelle d'avoir discuté avec Barroso et je lui ai dit, tu es cuit, hein, tu ne vas pas passer. Il vaut mieux que tu demandes au gouvernement italien de t'envoyer un autre commissaire. Sinon, c'est la commission dans son ensemble qui va tomber. Et ça, ça va être un choc. Et évidemment, Barroso ne voulait pas faire ça. Mais finalement, il l'a fait. Finalement, il a demandé à l'Italie de retirer son commissaire et lui envoyer un autre. Et ça, c'était la première grande victoire politique du Parlement européen. C'était s'affirmer et dire on n'acceptait pas n'importe quoi. Mais ça a été la conséquence de la liberté des choix d'un certain nombre de députés par rapport à ses dirigeants nationaux. Normalement, le député avait une liberté de choix très limitée.
Comment faire en sorte, selon vous, que les pouvoirs du Parlement européen soient renforcés ?
Je pense qu'il faudrait aller à des listes supranationales. Et que le député devrait être beaucoup plus maître de sa candidature. Il faut choisir quelqu'un, pas une liste. Vous votez une liste, vous ne savez pas à qui voter, non 35 personnes. Et les députés sont beaucoup moins liés à son rapport avec les citoyens qui les ont élus. Il faudrait faire plus de campagnes pan-européennes, avec une responsabilité plus directe des députés. Que tu saches qui est ton député. Et peut-être ton député est élu dans une proposition qui mêle différentes candidatures nationales. L'élection européenne continue à être une réplique des élections nationales. Elles sont trop nationalisées. Mais l'idée de faire des listes transnationales n'a pas prospéré.
Pourquoi ?
Parce que le gouvernement reste très attaché à la... On envoie une délégation française au Parlement européen, une délégation espagnole au Parlement européen. On envoie une délégation socialiste européenne au Parlement européen. C'est pas les socialistes ou les populaires qui sont élus sous le drapeau d'une idéologie. C'est toujours le drapeau national qui compte plus. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas dans l'intégration politique, parce que le Parlement européen reste trop dépendant de la dynamique politique nationale. Et ensuite, n'a pas les pouvoirs d'un Parlement. Le Parlement européen devrait pouvoir voter l'impôt, un impôt européen. Tandis que maintenant, je sais que parler des impôts, c'est pas trop sympathique. Mais si l'Europe gère des ressources, les Européens devraient savoir d'où viennent ces ressources et à quoi ils sont destinés. Parce que maintenant, la Commission européenne demande de l'argent aux États. Et l'État demande l'argent aux contribuables. Mais il n'y a pas un lien direct entre le contribuable et l'Europe. Et ça fait que l'Europe apparaît comme une sorte de roi mage, qui a des ressources, et qui laisse tomber sur les citoyens, sur les États, et les gens ne visualisent pas que s'il tombe, d'abord il a été donné. Et c'est pour ça que la bataille budgétaire en Europe, finalement, c'est une bataille nationale. Combien je mets dans la poche commune et combien j'en retire. Et le solde net, est-ce que je reçois plus que je paye? Ah non, jamais de la vie. Il faut que je reçois au moins autant que je paye. Mais si tout le monde reçoit autant qu'il paye, il n'y a pas de redistribution. Alors, est-ce que l'Europe n'est pas une machine qui fait de la redistribution territoriale? Oui, elle le fait. Oui, elle le fait, mais par des méthodes qui ne sont pas transparentes. Il faudrait faire un énorme effort de clarification de flux financiers en Europe, des citoyens aux citoyens. Mais ça demanderait donner à l'Europe beaucoup plus de pouvoir politique. Tant que l'Europe n'aura pas le pouvoir de taxer, ne sera pas perçue comme un sujet politique.
Josep Borrell, je vous propose, pour terminer cet épisode, de retirer votre casquette de politique, de responsable politique européen, pour enfiler la casquette d'universitaire, puisque vous disiez que vous avez ensuite réintégré l'université. Vous avez, de fait, présidé l'Institut universitaire européen de Florence de 2010 à 2012. C'est quoi déjà ? Quel est le rôle de cet institut qu'on connaît finalement assez peu ?
On le connaît très peu, oui, parce que c'est une institution très, très élitiste qui ne fait que fait plus de choses. Quand j'y étais, elle ne faisait que des études de doctorat. Des doctorats qui faisaient 5 ans avec des professeurs très choisis dans toute l'Europe. Dans un couvent dans les montagnes de Florence, c'était un endroit idyllique pour se retirer, à réfléchir, à diriger des thèses. C'est la seule université européenne qui existe. Et ça prouve aussi que l'Europe ne s'est pas faite en utilisant les universités. Il devrait y avoir plusieurs universités européennes. En fait, il y a des universités qui s'appellent universités européennes. Ici en Espagne, à Madrid, il y en a une université européenne. Il n'y a rien d'européenne, non ? Mais là, oui, c'est une véritable université européenne, financée par les États, avec des professeurs de tous les pays, avec des boursiers de tous les pays, petite dans sa dimension, importante dans la poussée de sa recherche, peut-être pas trop en rapport avec la réalité. C'était des études plutôt théoriques. J'ai créé alors la conférence sur l'état de l'Union. C'est-à-dire, une fois par an, on va faire un débat sur l'état de l'Union. Au début, ça n'a pas été très bien reçu, parce que ça, c'était entrer dans le domaine du politique. Et oui, évidemment, si vous parlez de l'état de l'Union, vous parlez de politique, non ? Mais finalement, ça a eu un certain... Ça, la première édition, c'était en 2011. Et la dernière édition, ça a été l'année dernière, parce que la...
En 2025
C'est la nouvelle direction de l'Institut a décidé de ne plus le faire et chercher de autres façons de s'engager dans le débat européen.
En avril 2012, vous avez dû démissionner de votre poste après la révélation d'un problème de déclaration d'intérêt. Je crois que vous aviez omis de déclarer que vous siégiez simultanément au conseil d'administration du groupe énergétique espagnol Abengoa. Bon, en 2013, vous réintégrez la chaire à la faculté des sciences économiques de l'Université Complutense de Madrid. Vous obtenez une chaire Jean Monnet en intégration économique européenne et vous y enseignez là. Jusqu'à votre retraite en 2017 ?
Eh oui. Et finalement, je n'étais pas, peut-être pas fait pour diriger un centre de recherche théorique. Peut-être que j'avais besoin d'être plus en contact avec des études qui sont plus près de la réalité. Je suis rentré avec Jean Monnet. Et qui m'a donné l'Union européenne. C'est pas facile hein, d'avoir un chargé à monnaie, il y a énormément d'implications. Et ça vous donne surtout un statut. Et j'ai passé 3 ans à l'Institut d'études internationaux de l'Université Complutense. Ça a été une époque tranquille. Je pense que ça a été la plus tranquille de ma vie.
Ça s'est réagité après ?
Oui, je faisais mes cours, j'étais content. Ça a été une époque pacifique. Je n'étais même pas en politique jusqu'en 2017 avec la Catalogne, les problèmes catalans.
Et là, vous êtes vraiment revenu sur le devant de la scène.
Les problèmes catalans m'ont remis à nouveau sur le devant de la scène, oui.
Jusqu'à votre nomination au poste de ministre des Affaires étrangères en 2018 par Pedro Sanchez.
Je ne m'y attendais pas du tout. Je me rappelle, j'étais à Fonteverde, en Toscane, un endroit idéal au pied du mont Amiata. En train de marcher dans la Toscane magnifique, quand Pedro Sanchez m'appelle pour me dire qu'il voulait que je sois ministre des Affaires étrangères.
Vous avez réfléchi ?
Bon, oui, j'ai beaucoup réfléchi.
En marchant ?
J'ai beaucoup réfléchi en disant, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, il y avait déjà 3 ans que je réfléchissais, alors peut-être il fallait revenir à l'action.
Et vous êtes revenu à l'action.
Oui.
Vous êtes revenu à l'action jusqu'en 2019, puisqu'en 2019, vous avez été nommé HRVP. HRVP, pour l'instant, ça ne parle pas à grand monde, mais on saura dès l'épisode suivant ce que ça veut dire. À demain, merci beaucoup, Josep Borrell. Demain, l'épisode 5, le dernier, Quo Vadis et Europa.
Exactement.
C'était À Voix Nue avec Josep Borrell. Réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.